Chapitre 9. Le château Gaillard. Le jeune marchand drapier, en se réveillant, se trouva tout dégrisé de son courage de la veille. Il ne fit point difficulté de s'avouer qu'il avait été très ridicule en proposant un duel à l'arquebusier, lui qui ne savait manier d'autre arme que la demi-aune, dont il s'était escrimé souvent du temps de son apprentissage, avec ses compagnons dans le clos des Chartreux. Partant, il ne tarda guère à prendre la ferme résolution de rester chez lui et de laisser son adversaire promener son béguin jaune dans le pré au clair en se balançant sur ses pieds comme un oison bridé. Quand l'heure fut passée, il se leva, ouvrit sa boutique et ne parla point à sa femme de la scène de la veille, comme elle évita, de son côté, d'y faire la moindre allusion. Ils déjeunèrent silencieusement. Après quoi, Jabot alla, comme à l'ordinaire, s'établir sous le parapluie rouge, laissant son mari occupé, avec sa servante, à visiter une pièce de drap ayant marqué les défauts. Il faut bien dire qu'il tournait souvent les yeux vers la porte et tremblait à chaque instant que son redoutable parent ne vînt lui reprocher sa couardise et son manque de parole. Or, vers 8h30, il aperçut de loin l'uniforme de l'arquebusier poindre sous la galerie des piliers, encore baigné d'ombre, comme un reître de Rembrandt qui luit par trois paillettes, celle du Morion, celle du Aubert et celle du Nez. Funeste apparition qui s'agrandissait et s'éclaircissait rapidement et dont le pas métallique semblait battre chaque minute de la dernière heure du drapier. Mais le même uniforme ne recouvrait point le même moule et, pour parler plus simplement, c'était un militaire compagnon de l'autre qui s'arrêta devant la boutique d'Eustache, remis à grand-peine de sa frayeur et lui adressa la parole d'un ton très calme et très civil. Il lui fit connaître d'abord que son adversaire, l'ayant attendu pendant 2 heures au lieu du rendez-vous sans le voir arriver, et jugeant qu'un accident imprévu l'avait empêché de s'y rendre, retournerait le lendemain, à la même heure, au même endroit, y demeurerait le même espace de temps, et que, si c'était sans plus de succès, il se transporterait ensuite à sa boutique, lui couperait les 2 oreilles, et les lui mettrait dans sa poche, comme avait fait en 1605 le célèbre Brusquet à un écuyer du duc de Chevreuse pour le même sujet, action qui obtint l'applaudissement de la cour et fut généralement trouvée de bon goût. Eustache répondit à cela que son adversaire faisait tort à son courage par une menace pareille et qu'il aurait à lui rendre raison doublement. Il ajouta que l'obstacle ne venait point d'une autre cause que de ce qu'il n'avait pu trouver encore quelqu'un pour lui servir de second. L'autre parut satisfait de cette explication et voulut bien instruire le marchand qu'il trouverait d'excellents seconds sur le pont neuf devant la Samaritaine où il se promenait d'ordinaire. Jean, qui n'avait point d'autre profession et qui, pour un écu, se chargeait d'embrasser la querelle de qui que ce fût et même d'apporter des épées. Après ces observations, il fit un salut profond et se retira. Eustache, resté seul, se mit à songer et demeura longtemps dans cet état de perplexité. Son esprit fourchait à 3 résolutions principales. Tantôt il voulait donner avis au lieutenant civil de l'importunité du militaire et de ses menaces, et lui demandait l'autorisation de porter des armes pour sa défense. Mais cela aboutissait toujours à un combat. Ou bien il se décidait à se rendre sur le terrain en avertissant les sergents, de façon qu'ils arrivassent au moment même où le duel commencerait. Mais il pouvait arriver quand il serait fini. Enfin, il songeait aussi à s'en aller consulter le bohémien du Pont-Neuf, et c'est à cela qu'il se résolut en dernier lieu. À midi, la servante remplaça sous le parapluie rouge Jabote, qui vint dîner avec son mari. Celui-ci ne lui parla point pendant le repas de la visite qu'il avait reçue, mais il la pria ensuite de garder la boutique pendant qu'il irait faire l'article chez un gentilhomme nouvellement arrivé et qu'il voulait se faire habiller. Il prit en effet son sac d'échantillons et se dirigea vers le Pont-Neuf. Le château Gaillard, situé au bord de l'eau, à l'extrémité méridionale du pont, était un petit bâtiment surmonté d'une tour ronde qui avait servi de prison dans son temps, mais qui maintenant commençait à se ruiner et se crevasser et n'était guère habitable que pour ceux qui n'avaient point d'autre asile. Eustache, après avoir marché quelque temps d'un pas mal assuré parmi les pierres dont le sol était couvert, rencontra une petite porte au centre de laquelle une souris chauve était clouée. Il y frappa doucement, et le singe de Maître Gonin lui ouvrit aussitôt en levant un loquet, service auquel il était dressé comme le sont quelquefois les chats domestiques. L'escamoteur était à une table et lisait. Il se retourna gravement et fit signe au jeune homme de s'asseoir sur un escabeau. Quand celui-ci lui eut conté son aventure, il l'assura que c'était la chose du monde la moins fâcheuse, mais qu'il avait bien fait de s'adresser à lui. « C'est un charme que vous demandez, » ajouta-t-il. Un charme magique pour vaincre votre adversaire à coup sûr. N'est-ce pas cela qu'il vous faut? Oui, da, si cela se peut. Bien que tout le monde se mêle d'en composer, vous n'en trouverez nulle part d'aussi assuré que les miens. Encore ne sont-ils pas, comme d'aucuns, formés par art diabolique. Mais ils résultent d'une science approfondie de la blanche magie et ne peuvent en aucune façon compromettre le salut de l'âme. « Bon cela, » dit Eustache. « Autrement, je me garderais d'en user. Mais combien coûte votre œuvre magique? Car encore faut-il que je sache si je la pourrais payer. Songez que c'est la vie que vous achetez là. Et la gloire encore par-dessus. Ce point convenu, pensez-vous que, pour ces deux choses excellentes, on puisse exiger moins que 100 écus? 100 diables pour t'emporter, grommela Eustache, dont la figure s'obscurcit, c'est plus que je ne possède. Et que me sera la vie sans pain et la gloire sans habit? Encore peut-être est-ce là une fausse promesse de charlatan dont on leurre les personnes crédules? Vous ne payerez qu'après. C'est quelque chose. Enfin, quel gage en voulez-vous? Votre main seulement. Eh bien donc. Oh, mais je suis un grand fat d'écouter vos sornettes. Ne m'avez-vous pas prédit que je finirais par la hart? Sans doute, et je ne m'en dédie point. Or donc, si cela est, qu'ai-je à redouter de ce duel? Rien. Sinon quelques estocades et estafilades pour ouvrir à votre âme les portes plus grandes. Après cela, vous serez ramassé et hissé néanmoins à la demi-croix, haut et court, mort ou vif, comme l'ordonnance le porte, et ainsi votre destinée se verra accomplie. Comprenez-vous cela? Le drapier comprit tellement qu'il s'empressa d'offrir sa main à l'escamoteur en forme de consentement, lui demandant 10 jours pour trouver la somme, à quoi l'autre s'accorda, après avoir noté sur le mur le jour fixe de l'échéance. Ensuite, il prit le livre du grand Albert, commenté par Corneille, Agrippa et l'abbé Tritem, l'ouvrit à l'article des combats singuliers, et, pour assurer davantage Eustache que son opération n'aurait rien de diabolique, lui dit qu'il pourrait cependant réciter ses prières sans crainte d'y apporter aucun obstacle. Il leva alors le couvercle d'un bahut, en tira un pot de terre non verminissée et y fit le mélange de divers ingrédients qui paraissaient lui être indiqués par son livre en prononçant à voix basse une sorte d'incantation. Quand il eut fini, il prit la main droite d'Eustache qui, de l'autre, faisait le signe de la croix et l'oignit jusqu'au poignet de la miction qu'il venait de composer. Ensuite, il tira encore du bahut un flacon très vieux et très gras et, le renversant lentement, répandit quelques gouttes sur le dos de la main en prononçant des mots latins qui se rapprochaient de la formule que les prêtres emploient pour le baptême. Alors seulement, Eustache ressentit dans tout le bras une sorte de commotion électrique qui l'effraya beaucoup. Sa main lui sembla comme engourdie, et cependant, chose bien étrange, elle se tordit et s'allongea plusieurs fois à faire craquer ses articulations comme un animal qui s'éveille. Puis il ne sentit plus rien. La circulation parut se rétablir et Maître Gonin s'écria que tout était fini et qu'il pouvait bien à présent défier à l'épée les plus roides plumets de la cour et de l'armée et leur percer des boutonnières pour tous les boutons inutiles dont la mode surchargeait alors leurs vêtements.